Interview, actualité, chronique, montez le son pour la fosse. L'émission rock et métal, présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Drouot Productions.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rock et Metal La Fosse, coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Drouot Productions, avec un nouvel épisode chaque vendredi sur Spotify, YouTube, Deezer, the-pit.com, Apple Podcast, Samsung Podcast, Google Podcast et bien d'autres plateformes de podcast. Si vous aimez cette émission, n'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme favorite pour ne pas rater les prochains épisodes. Le nom c'est La Fosse, le podcast métal et rock. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de légende avec Orkis, un groupe de power metal, metal symphonique, mais avec des éléments heavy, thrash, death et même black metal. Alors vous pouvez penser que c'est fourre-tout, mais ils arrivent à associer tout ça de manière hyper cohérente et avoir leur propre style. Ils sortent leur deuxième album Legends vendredi prochain, le 26 avril, et donc on va parler de ça avec eux. Ça c'est dans quelques minutes. Après l'interview, je vais vous parler moi, non pas d'un documentaire mais d'un concert disponible en exclusivité sur The Pit. C'est le concert du groupe de métal progressif Clone à l'empreinte de Savigny-le-Temple, capté en avril 2023. Puis on terminera l'émission avec le traditionnel agenda concert Gérard Drouot Productions et le programme du Hellfest Corner. On écoute tout de suite The Chained Oak, le chêne enchaîné, premier extrait dévoilé par Orkis de leur album Legends, et on retrouve le groupe juste après pour l'interview Orkis The Chained Oak.
We'll be right back.
Vous écoutez le podcast Rock et Metal, La Fosse, c'était Orkiss avec le morceau The Chained Oak. J'ai le plaisir de recevoir Brice, guitariste, claviériste, compositeur principal d'Orkiss, et Lorraine, chanteuse et harpiste d'Orkiss. Bonjour à vous.
Salut.
Ça a fait une belle allitération en ist, voilà, claviériste, guitariste, Brice,
t'as oublié autrice du coup.
Autrice aussi également, effectivement. Alors merci beaucoup d'être dans cette émission une semaine avant la sortie de votre deuxième album Legends. J'imagine que vous êtes impatient de le sortir cet album.
Ah bah oui, surtout qu'on en a, on a bien galéré.
Ah, pourquoi?
Ça a été une série de rebondissements, il n'y a jamais rien qui a été.
Ah ouais,
mais on s'en est quand même sorti.
D'accord, bah finalement vous allez arriver à le sortir.
C'est ça.
Alors on va revenir rapidement, je vais y arriver, sur Orkiss, du coup, groupe créé en 2019-2020 à peu près. C'est vous deux qui êtes à l'origine d'Orkiss, vous vous êtes rencontrés dans un autre groupe en Is, c'était, tu me l'as dit tout
Nepenthes.
À l'heure. Nepenthes, voilà. Vous êtes devenus amis, vous avez également Julien à la basse, qui est un pote à toi, Brice.
Ouais.
Jean-Yves à la batterie, qui joue, qui a joué dans plein d'autres groupes, Lurking, Eviction, Old Sparky, Mortuary, enfin voilà, j'en cite plein. Le dernier arrivé, c'est Henri à la deuxième guitare, qui est aussi un pote, et il est entré dans le groupe après votre premier album sorti en 2021. Alors musicalement, Orkiss, vous êtes un peu difficile à classer, puisque vous avez beaucoup d'influence dans votre musique. Vous avez des éléments heavy, power metal et symphonique, mais vous n'êtes pas un groupe de metal symphonique à proprement parler. Vous avez des riffs empruntés au thrash, death metal, voire au black metal, mais vous n'êtes pas un groupe de thrash, death, black. Vous avez du chant clean mélodique et de la harpe qui vous donne un côté celtique et folk, mais vous n'êtes pas un groupe de folk. Voilà, comment vous résumez Orkiss?
Moi, tu viens de le faire, hein, c'est bien. C'était parfait.
En deux mots, metal mélodique pour nous.
Metal mélodique. Vous dites aussi sur votre Facebook metal extrême avec des lignes mélodiques de la harpe celtique. Voilà.
C'est ça. Ça a toujours été très 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 dur en fait de catégoriser Orkiss et d'expliquer en deux mots en fait tout ce qu'on fait. C'est très très compliqué parce que il faut vraiment en fait regarder limite morceau par morceau et se dire bah ce morceau là c'est du thrash sympho, ce morceau là ça va être du black. Voilà.
Donc metal extrême, metal mélodique quoi au sens large.
Alors, j'aime bien dire true heavy symphonique.
True heavy symphonique ou heavy couillu, n'est-ce pas?
Alors, private joke.
C'est ça, exactement. Bon, pas en deux mots, du coup, comment vous résumez un petit peu le concept d'Orkiss, voilà, c'est quoi un petit peu là où vous vouliez aller avec Orkiss, à la base?
En fait, on veut à la base, c'est vraiment se faire plaisir et c'est jouer la musique que l'on aime et qui nous rassemble. Et en fait, comme on a des goûts différents et comme on aime des styles de métal qui sont différents, alors déjà nous, au sein d'Orkiss et nous-mêmes, en fait, on aime des styles différents. On voulait pas se cantonner à un style, on voulait se dire, et ce qu'on dit toujours en fait depuis le début, c'est liberté. Du coup, voilà, on joue ce qu'on a envie de jouer. Et si à un moment donné, on a envie de faire ce type de morceau-là, et ben on fera ce type de morceau-là.
Oui, du coup, vous mettez l'accent sur des éléments un peu que j'ai cités selon l'envie, le mood. Un album ou un morceau va pas ressembler à un autre selon ce que vous avez envie de mettre un peu en lumière, quoi. C'est ça, en gros.
Je pense que ce qui relie un peu tous les morceaux, quand même, bah, parce qu'il y a quand même de la cohérence, hein, oui. Ça part pas dans tous les sens.
Alors justement, j'allais te demander, parce que c'est toi le principal compositeur,
C'est
l'unique compositeur. Est-ce que c'est compliqué de faire en sorte que ce soit pas un peu fourre-tout justement et que ce soit cohérent?
Je pense pas, parce que franchement, autant il y a beaucoup de choses qui me stressent, mais quand je compose, mais autant la cohérence des morceaux les uns par rapport aux autres, ça fait pas partie des éléments qui m'inquiètent. Dans le sens où les groupes qui m'influencent moi quand je compose, c'est des groupes qui ont eux-mêmes été influencés par un peu les mêmes bases que beaucoup de gens ont. Et aussi, en fait, globalement, sur le ressenti, on est toujours quand même sur du mélodique, sur de l'efficace et sur de l'épique, en gros. Mais dans plusieurs formes différentes.
Effectivement, et puis bah du coup les morceaux se ressemblent pas forcément, mais il y a toujours un petit truc, une patte Orkiss, on va dire, voilà, je sais pas si c'est quelque chose que tu fais naturellement un petit peu de manière inconsciente, mais il y a toujours une patte Orkiss, quoi.
Bah, il paraît.
Et donc il y a de la harpe dans votre groupe. Vous n'êtes pas les premiers à utiliser la harpe dans le métal. Hein. C'est relativement courant dans le folk metal avec des groupes comme LUVC ou In Extremo, mais également parfois dans d'autres styles. Et là, je vais le citer juste parce que je l'aime. C'est le groupe américain ERA, E2RA, qui est du metal moderne, metalcore progressif, djent. Et ils utilisent de la harpe sur le morceau Dementia. Voilà, c'était vraiment juste une petite shout-out à ce groupe, du coup. Et on revient à Orkiss. Vous avez sorti donc votre premier EP Awakening en 2020, suivi de votre premier album Away en 2021. Et donc votre deuxième album Legends arrive le 26 avril, la semaine prochaine. Vous disiez que, je crois que c'est Lorraine qui disait que Orkis s'est réveillé avec Awakening, il a construit son chemin sur Away, et donc avec Legends, c'est quoi l'étape maintenant ?
C'est vrai qu'il y avait une belle suite sur le premier CD et le deuxième CD.
C'est là, ça, quand on se lance dans des concepts foireux, on n'arrive pas à continuer. Et...
Non, là, c'était une envie, en fait. Genre, moi, j'adore
c'est
raconter
la parole,
des
avec
histoires.
La légende, de raconter des légendes, c'est la prise de parole une
ouais,
fois qu'on
voilà.
s'est
ouais,
réveillé.
C'est exactement
voilà.
ça.
Enfin, tout a été pensé avant.
Exactement. Tout est calculé, tout est minutieux. C'est aussi ça, l'art du marketing, je crois. C'est parfois de trouver des cohérences et d'expliquer... Et de faire comprendre aux gens, non, mais on a fait ça exactement pour ça. En fait.
C'était calculé.
C'est calculé depuis le début, alors qu'on est là, Mayday, Mayday, Mayday.
Maiden.
C'est ça. Mais ouais, non, l'envie, c'était aussi le voyage. Parce qu'à la base, en fait, on avait parlé de prendre un bateau pour la jaquette. Et on est parti là-dessus, de partir sur des légendes, et au fur et à mesure, en fait, on les a construits, on l'a construit comme ça, en fait, l'album.
Ça s'est fait un petit peu entre guillemets par hasard. Alors, tu parlais de voyage, voilà. Donc votre album Legends, il nous entraîne.
Voyage, pardon.
Legends, donc votre album nous entraîne à travers des contes et des légendes de la culture celte et viking. Alors Lorraine, c'est toi qui écris les paroles, si ça n'a pas changé depuis donc quelques années. Sur les albums précédents, il y avait déjà des morceaux qui abordaient des légendes, comme The Devil and the Impudent, qui parle de la légende du château de Glamis en Écosse, voilà, qui a plein d'histoires de monstres, de dames blanches, etc. Mais il y avait aussi des morceaux plus personnels, notamment sur votre premier album. Alors pourquoi uniquement des légendes sur ce deuxième album ? T'as vraiment juste voulu faire quelque chose de mythologique, voilà, pas entrer dans le personnel cette fois.
En fait, ce qui m'a botté, c'était vraiment la richesse des cultures, ouais. la richesse du folklore. Et je trouve que l'être humain a vraiment une capacité à inventer des histoires parfois qui sont vraiment sensationnelles. Et voilà, c'était un petit hommage. Bon, ça, c'est la partie, bien à dire. La deuxième, c'est que j'avais aucune idée. J'ai tapé... Non, je rigole.
Sur une IA, je voudrais des paroles de chansons sur
des
légendes.
Est-ce que tu peux me donner, l'IA, du contenu pour faire un album ? Parce que je ne sais pas quoi écrire.
Et donc, le premier single que vous avez dévoilé, c'est The Chained Oak qu'on vient d'écouter. Alors, est-ce que vous pouvez me détailler la légende dont parle ce morceau, donc le chêne enchaîné ?
Alors, ce morceau, en fait, c'est un conte qui passe dans une forêt la nuit et qui rencontre une mendiante. Et la mendiante lui demande une pièce. Et donc, le conte, c'est Earl John, refuse, en fait, de lui donner une pièce. Et il s'avère que cette femme, cette dame blanche, est une sorcière et qui lui dit, si c'est ça, je vais te jeter un sort à toi et à toute ta famille. Et elle se trouve au pied d'un chêne et elle lui dit si il y a une branche de cet arbre qui tombe, un membre de ta famille mourra. Et un soir de tempête, il y a une branche de l'arbre qui tombe et par tous les hasards, il y a un membre de sa famille en fait qui décède. Et du coup, il comprend que la légende est vraie, que la malédiction est vraie. Et de peur qu'il y ait une autre branche qui tombe, il fait enchaîner toutes les branches de l'arbre pour éviter qu'il y ait quelqu'un d'autre de sa famille qui meure.
D'accord. Et d'ailleurs, le clip, on peut voir un petit peu effectivement ce que vous l'avez mis du coup en image. Alors, comment vous avez choisi ces légendes en quelques mots ? Est-ce que c'est déjà des légendes à la base que vous connaissiez ? Pas du tout ? Enfin voilà, où est-ce que vous êtes allé chercher ? C'est peut-être que toi d'ailleurs qui es allé chercher, je sais pas, Lorraine.
Non, en fait, on... là où les autres membres du groupe on propose des thématiques et en tout cas moi les quelques thématiques que j'avais proposées c'était surtout je cherchais pas spécifiquement une thématique, c'est juste en écoutant un truc complètement par hasard, je me suis dit tiens ce serait marrant de faire une chanson là-dessus, comme un peu pour The Devil and the Impudent sur l'album d'avant où bah, je suis allé en Écosse, j'ai visité le château de Glamis, j'ai entendu la légende, je me suis dit putain, ça ferait une bonne, ça ferait une bonne chanson.
Surtout en Écosse, il y a des châteaux hantés à tous les coins de, tous les coins de route.
Donc, un vivier de légendes.
Ouais, et vous êtes allé aussi chercher du côté donc, du folklore viking. Du coup, c'est, là, c'est peut-être un peu plus éloigné de nous, mais est-ce que l'un de vous est allé en Norvège ou autre ?
Alors, oui. Ouais. Oui, et puis bon, moi, j'ai mon compagnon, je l'appelle mon viking, parce qu'il est normand. Oui, c'est pour Drogar. Voilà, Brice est en train de croquer dans
oui,
un crumpet.
Oui, on entend.
Brice ne sait pas ce que c'est que d'avoir un micro devant la bouche. Je croigne.
Mais et on m'a dit qu'on n'entendait pas quand on s'éloignait.
Oui, mais on
pas
entend moins.
Ça fait partie du direct, entre
c'est
guillemets.
C'est ça. Mais,
donc ton viking.
Oui, voilà. Et puis du coup, c'est... Alors, oui, moi je suis baignée dans la culture celte et viking, enfin, beaucoup celte depuis que je suis toute petite, mais je cherchais voilà, une autre légende et en faisant mes recherches, bah, je suis tombée sur le Drogar. Voilà, et du coup, j'ai écrit un morceau sur ce morceau.
Qui est l'un de
mes
préférés d'ailleurs.
Ah,
ouais,
et comment, Brice va nous dire comment on appelle ce morceau.
C'est le morceau Amorkis.
Amorkis, pourquoi Amorkis?
Très clairement, c'est pour moi, quand je l'ai composé, c'était
un
sur la première moitié du morceau que sur la deuxième, mais c'est un très gros hommage à Amorphis, qui est un des groupes que je préfère et qu'on aime tous dans le groupe d'ailleurs.
Donc, petit jeu de mots, voilà. Amorkis. Je pensais que c'était en lien avec l'amour, peut-être. Amorkis, voilà.
Non. Et quand on est vraiment, on l'appelle le Gramorkis.
Gramorkis, c'est voilà, des jeux de mots à tiroir. Et donc on va écouter un deuxième extrait de votre, deuxième album Legends, mais on va pas écouter celui-là. On va écouter tout de suite le deuxième morceau que vous avez dévoilé, et donc vous allez m'aider pour la prononciation, c'est sur la baie des Trépassés.
Oui, Bae an Anaon.
Voilà, et ben on écoute ce morceau-là tout de suite, c'est parti.
Crime and sin. a man can to die and draw under its spell. He seduced to convince her to steal the key to the gate that could tease from the
C'était Orchis avec le morceau, je vais laisser Lorraine le redire.
Bae an Anaon.
Voilà, exactement. Et donc, je suis toujours avec Brice et Lorraine d'Orchis. Alors, de quoi parle ce morceau ? C'est quoi la baie des trépassés ?
Alors, la baie des trépassés, donc c'est tout près de Concarneau, en Bretagne.
Et toi, tu es bretonne, je crois, d'ailleurs.
Oui. Ouais. C'est la légende, en fait, de la cité 10 et ça se rapproche de l'Atlantide. En fait, c'est la cité qui a été prise par les eaux. L'histoire en fait raconte donc le roi Gradlon qui habite et qui gouverne la cité 10 a une fille qui s'appelle Dahu, et Dahu est comment dire consommatrice d'amants, et elle a un amant en fait différent tous les soirs, et tous les soirs elle jette l'amant qu'elle a eu à travers la baie, et un soir en fait c'est Satan lui-même qui se présente à elle et qui la séduit et qui la convainc de prendre les clés de la cité 10. et de les lui remettre. Et quand elle le fait, le diable en fait ouvre toutes les portes qui protègent la ville des eaux, et du coup là, l'eau
la
en
cité
fait
est engloutie.
Voilà. Et du coup, Gradlon essaye de sauver sa fille. Ils montent tous les deux sur leur cheval Morvak, et Morvak est connu pour être un cheval qui court sur l'eau. Et du coup, il met en sécurité Dahu. Et quand il voit en fait le diable qui est au-dessus de la ville, là, il comprend en fait la traîtrise de sa fille. Et en fait, il de remords et de honte et de colère, il jette lui-même sa fille à travers, enfin, du haut de la falaise. Et on raconte que donc Dahu est morte noyée, et que certains jours, les marins entendent la voix de Dahu. Et ça les amène en fait à leur perte et à leur noyade.
D'accord, alors quand moi j'ai lu le résumé, j'ai vu Dahu, je me suis dit, est-ce qu'on parle du Dahu, le petit animal mythologique?
Je dois avouer que déjà, Dahu, je trouve pas, enfin, comment dire, à l'oreille, je trouve pas ça très joli. Effectivement, je me suis posé la question, et pendant très longtemps, quand j'ai écrit les paroles, je me suis dit, est-ce que je vais garder ce mot-là, et enfin, ce nom-là, et j'ai décidé que oui, ça passait bien dans la phrase.
Bon, voilà, t'as réussi à le faire sonner. Et donc, il y a la baie des Trépassés, effectivement, en Bretagne. Je crois qu'on peut y faire du surf aujourd'hui. Voilà, c'est juste pour la petite anecdote. Est-ce qu'il y a des doubles sens dans les morceaux, dans les paroles, ou c'est vraiment là que les légendes? Tu n'as pas incorporé de personnel ou de choses comme ça?
Non, c'est que des légendes.
D'accord, super. Et donc, c'est toi, Brice, le compositeur principal, l'unique, comme tu disais tout à l'heure, d'Orkis. Tu es ultra prolifique, si j'ai bien compris. Le processus, il est assez simple. C'est les autres te font un peu une liste de courses, tu composes, tu envoies les démos, et chaque musicien modifie sa ligne, ajoute, enlève, bref, fait à sa sauce. Ça se passe toujours comme ça, du coup, dans le groupe?
C'est super bien résumé. J'aurais pas fait mieux.
Bah, je me suis bien renseigné. Mais alors, à l'époque de votre premier album, vous disiez que vous aviez quand même pour projet de composer un titre à plusieurs pour le deuxième album. Alors, est-ce que ça s'est fait ou pas?
Non.
c'est ma faute. C'est que Brice est tellement prolifique et il est tellement bon dans ce qu'il fait. En fait, il nous envoie un morceau et en règle générale, on ne change strictement rien. Parce que
c'est déjà hyper quali.
Hyper abouti. Bah, et
vous enrichissez des trucs quand même.
Oui. En règle générale, on change pas grand chose. Et alors pourquoi j'explique ça? C'est juste que Brice avance, et du coup moi je prends du retard parfois dans les paroles. Et du coup quand moi j'écris les paroles d'un morceau, Brice il en a déjà pondu 5 en fait, donc je suis toujours à la traîne. On aimerait bien, mais là c'est clairement un manque de temps aussi.
C'est aussi compliqué d'écrire des paroles, de trouver des sujets, tu le disais tout à l'heure. Je crois qu'il y a une anecdote, je crois que c'est Julien qui disait de votre groupe, il y a un Julien dans votre groupe,
Lancelot. Non, parce que tout à l'heure t'as dit Julien, j'étais
oui.
Julien dans notre groupe.
Oui, forcément, voilà. Bon, moi j'ai choisi les prénom, Julien qui disait que le premier morceau que Brice lui a fait écouter portait le nom 385. Voilà,
c'est très probable, oui.
Et donc Brice, est-ce que le concept donc d'écrire sur, donc de faire un album autour des légendes, ça s'est décidé avant les compos et donc ça a pu peut-être influencer tes compos ou pas du tout? Est-ce que tu t'es inspiré de légendes pour composer? Enfin voilà, comment ça s'est passé à ce niveau-là? Ou tu as utilisé des morceaux qui datent d'il y a 10 ans parce qu'ils étaient déjà composés et il fallait les sortir?
Il y a un peu de ça. non, c'est... Clairement, les morceaux, ils ont été écrits assez il y a un certain temps quand même. Donc, le concept de Legends n'était pas du tout
défini
sur la table, quoi. Ouais. Oui, défini. Et non, c'est des morceaux qui, pour certains, oui, sont composés depuis très longtemps. Après, il y a toujours. On accorde tous, mais moi particulièrement une importance à la dynamique et à l'enchaînement des morceaux dans un album. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai des morceaux qui ont peut-être 5 ou 6 ans, mais qui sont pas, qui figurent pas sur ni Awakening, ni Away, ni Legends, parce que je trouvais que dans l'enchaînement des morceaux, ça collait pas, où il y avait deux morceaux qui étaient vraiment dans le même style et qui se ressemblaient peut-être un peu trop, donc c'était pas forcément pertinent de les mettre tous les deux sur le même album. Après, je dis pas qu'ils sont forcément plus mauvais que les autres ou qu'on a mis que... Ouais, qui sont plus mauvais ou meilleurs que les autres. C'est vraiment une question d'enchaînement. Quoi.
Ils attendent leur heure et peut-être Exactement, qu'ils sortiront l'année prochaine et peut-être qu'ils sortiront dans 10 ans, on ne sait pas trop, ça dépend. Alors il y a quelque chose d'original avec vous que j'aime beaucoup, c'est que vous donnez des noms de nourriture à vos chansons tant que Lorraine n'a pas écrit les paroles. Vous aviez par exemple Galette Bretonne, sur l'EP c'était Tartiflette, Tiramisu et Carbonara. Alors là c'était quoi les noms si vous vous en souvenez quelques-uns
Alors, Cornichon je crois, non
Anaon, c'était Tomate Mazza. Boudica, c'était spaghetti bolognaise. Banchi. C'était pas saucisson. Non, c'était pas saucisson.
Ça donne faim. Ça donne faim.
Jane Hawk, c'était aubergine farcie.
Ah oui, c'est ça.
J'adore. Alors, surtout si tu composes 400 morceaux, va falloir en trouver des noms de
plats. Parce qu'au début, t'es là, vous avez écouté 314. Et moi, j'étais là, oh non, mais 314, c'est laquelle? Et du coup, je lui dis, faudrait qu'on donne un nom avant. Et on s'est dit que comme on aimait bien manger tous les deux,
Ça coulait de source. Alors, quand votre premier album est sorti en 2021, vous aviez donc déjà les idées pour le suivant qui va sortir 3 ans plus tard. Vous avez pris le temps de peaufiner justement cet album puisque vous aviez sorti l'EP en 2020, l'album en 2021. Là, vous avez pris 3 ans pour sortir ce deuxième album.
Oui, effectivement, on a vraiment poncé le concept. Non, pas du tout, on s'y est pris comme des manches.
En home studio et tout, je crois.
C'était en home studio et... pour résumer, c'est vrai qu'il y avait pas mal de matériel qui était déjà prêt il y a 3 ans et on a eu, en fait, dans le groupe, on a tous eu pas mal de changements et de changements personnels, qu'ils soient positifs ou négatifs en fonction des fois des moments, qui ont fait que on n'était pas forcément disponible au même moment et on n'a pas forcément pu avancer comme on aurait voulu sur les morceaux. Donc ça a pris pas mal de temps et on espère que on a pris des notes de tout ce qu'on a fait pas bien là pour pouvoir ne pas refaire les mêmes bêtises la prochaine fois.
Ah bah justement, en parlant de ça, vous travaillez toujours avec le même producteur, Raoul Choi, depuis votre premier EP. Vous disiez à l'époque du premier album que vous aviez fait des progrès depuis le premier EP. Alors est-ce que c'était le cas là aussi? Parce que là tu parlais des choses moins bien, mais des choses bien. Alors est-ce que vous avez fait des progrès entre le premier et le deuxième album?
Alors déjà, je pense que le fait qu'on ait Henri qui rajoute sa patte sur l'album, je pense que c'est un gros plus sur les solos notamment.
Puisqu'il est arrivé après la sortie de votre premier album, comme on disait tout à l'heure.
Et moi qui me considère beaucoup plus comme un guitariste rythmique et pas forcément comme un soliste, mais qui aime bien quand même entendre quelques beaux petits solos de guitare mélodiques, pas forcément pour faire de la branlette ou quoi que ce soit, mais vraiment qui rajoute un petit point d'orgue à la chanson. Je trouvais que Henri a réussi à traduire ce que j'avais en tête et puis du coup il a posé quelques solos, quelques solis.
Oui, moi j'accepte les deux. Hein.
qui ne sont pas piqués des hannetons. Voilà. À des moments justement qui renforcent un peu la force de certains morceaux. Et par contre, je pense que... les compositions sont peut-être à certains égards peut-être un peu moins maladroites qu'avant. Disons qu'il y a j'ai élagué un peu plus sur peut-être des répétitions qui n'étaient pas forcément nécessaires que j'ai enlevées ou ce genre de choses.
D'accord. Alors Lorraine, toi tu avais beaucoup travaillé sur ta voix pour atteindre un palier supérieur, comme tu le disais, pour votre album Away. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que tu as travaillé? Parce que du coup il s'est passé 3 ans, donc... Tu peux dire non, ça, si c'est non, la vérité.
Définitivement, il y a eu un énorme travail vocal qui a été fait de ma part et je pense que ça s'entend. Les gens qui ont écouté m'ont aussi beaucoup fait la remarque. Et moi, j'ai pas du tout honte de dire, et au contraire, je suis plutôt fière en fait, de dire que j'ai beau être chanteuse, j'ai beau aussi être professeure de chant. Je prends 2 heures de cours de chant par semaine. Et voilà, je bosse comme une acharnée parce que je pense que on ne cesse jamais d'apprendre et je sens que et encore à l'heure actuelle j'ai des moments où ma voix elle sonne pas comme ce que j'ai dans la tête en fait, et du coup tant que je n'entendrai pas ce que j'ai à l'intérieur de la tête, j'arrêterai jamais les cours de chant. Et puis de toute façon je pense que j'arrêterai jamais les cours de chant. C'est hyper important et moi ça m'apporte en fait de plus en plus de liberté et
Tu chantes depuis combien de temps? De manière plus ou moins vraiment assidue?
Il me semble que ça doit faire 4 ou 5 ans.
D'accord, oui, seulement. Oui, c'est pas beaucoup finalement. C'est quasiment la carrière d'Orkis pour l'instant.
Ça a commencé comme ça. Hein.
D'accord, c'est super. Moi, j'ai déjà reçu un batteur qui n'avait jamais fait de batterie avant d'entrer dans le groupe. Et un bassiste aussi.
Non, mais il y a des gens qui sont doués. Moi, je ne fais partie de ces gens qui ne sont pas doués, qui ont besoin de s'entraîner. Voilà,
vous êtes modeste. Vous êtes modeste chez Orkis. On va écouter un dernier extrait de votre deuxième album Legends et on se retrouve pour la troisième et dernière partie de l'interview. Les questions flash et un focus sur un concert de la plateforme The Pit, l'agenda concert Gérard Rowe Productions et le programme Jellfest Corner. On écoute tout de suite un troisième extrait de Legends, c'est Boudica, Queen of the Icy Night, et on va également écouter Legends, qui est l'intro de l'album, qui sert aussi d'intro à ce morceau. Orkis, Legends et Boudica, Queen of the Icy Night.
Lane's boarding sky, words in your hand. to crave for revenge and freedom, or to war the lion or their enemies. Brave and fearless, that fall, they won't many a battle, but then they got stuck on in the Midlands. They all fought to their death, of a weapon, a romance, and booty, a matter for a choice. To grow love and stand free.
Legends et Boudica, Queen of the Icy Night, Dorkis. Vous écoutez le podcast La Fosse et nous sommes dans la troisième partie de l'interview. Alors, même question que tout à l'heure, voilà, c'est quoi l'histoire de ce morceau, de quoi il parle en gros? Puisqu'en plus, c'est le morceau qui ouvre l'album.
C'est ça. Pour les albums en fait, de Orkis, où chaque CD, le premier morceau, c'est un morceau qui est révolutionnaire. Dans le sens où on veut que ce soit un morceau de révolte et de remettre en fait en cause le système ou voilà quelque chose qui n'est pas juste. Et du coup on n'est pas sur une légende pour le coup, parce que Boudica a vraiment existé. Et Boudica en fait, c'était la reine des Iceni, ou Icenai en anglais. Et du coup, à la mort de son mari, normalement l'Angleterre était envahie par les Romains à ce moment-là, et le royaume devait revenir à Néron, sauf que le roi, quand il est décédé, a dit non, moi je ne souhaite pas. Et du coup, il a légué en fait le royaume à Boudica, sa reine, et à ses deux sœurs. Et Néron en fait a été tellement énervé par ça qu'il a fait fouetter et violer Boudica et ses deux filles. Et le peuple a été fortement révolté par tout ça et s'est rangé derrière Boudica. Et c'est un peu le combat de David contre Goliath. Et ils ont incroyablement résisté parce qu'il y avait une différence numéraire qui était très importante. Mais bon, ils ont fini par perdre. Mais la devise, c'est... plutôt mourir en fait, et plutôt vivre une vie sans peu de richesse, hein, plutôt que d'être esclave, hein, et de vivre dans l'opulence. Et c'est vraiment ça en fait, c'est un message de révolte, et parfois de se dire vaut mieux garder entre guillemets ses idées pour être droit dans ses idées et ne pas en gros ne pas faire de la lèche à des gens juste pour briller ou pour vivre dans le lusque.
Et tout ça est parti de tomates mozza, hein, quand même. Hein.
Spaghetti bolognaise,
pardon, je me suis trompé de plat. Alors, on ne va pas détailler tous les morceaux présents sur l'album, on a parlé un petit peu de certains. On retrouve aussi la légende du cavalier sans tête, Kelpie, genre j'ai appris ce que c'était, voilà, une créature des mers, il y a les banshees évidemment. Enfin voilà, j'invite les gens à se plonger dans l'album. Est-ce qu'il y a un endroit d'ailleurs où ils peuvent retrouver un petit peu les différentes légendes qui sont détaillées, s'ils n'ont pas le CD physique?
Oh, bonne question.
Alors, sur la cover, il y a quelques petits clins d'œil, mais s'ils veulent se renseigner un petit peu, c'est vrai que pour avoir tout un détail...
C'est une idée pour vos concerts,
peut-être des petits flyers avec les petites explications.
Non, mais ce qu'on peut faire, c'est des petites vidéos en fait, où on parle de chaque morceau.
Par exemple.
Merci pour l'idée.
De rien, voilà. Alors, il y a un autre morceau dont j'aimerais parler, c'est votre premier morceau en français. J'allais le prononcer, mais je pense que tu le fais beaucoup mieux que moi. Peut-être Brice.
Non, vas-y.
Derdre and Vroon.
Voilà, moi je l'aurais prononcé Derdre et Broin. Voilà, donc vous retrouverez le nom du morceau. Alors je sais qu'on va vous poser la question lorsque vous allez faire les journées promo. Pourquoi ce morceau est en français? Comment ça s'est fait? Puisque c'est votre premier morceau en français, comme j'ai dit.
Alors pour moi, et là je parle vraiment pour moi, ce morceau il est très alsacien.
Merde, c'est ce que j'allais dire. Ah. Bah, je m'en vais alors du coup.
Pour ceux qui n'auraient pas bien entendu, Alcestien, du coup d'Alceste, le groupe de shoegaze black metal, post-black metal français. Ouais.
C'est ça, c'est un groupe qu'on adore tous les deux. Et j'aime beaucoup écrire et j'aime aussi beaucoup la poésie. Et c'est vrai qu'en anglais, c'est pas ma langue maternelle. Du coup, je peux avoir un petit peu plus de mal. En tout cas, ça me prend plus de temps. Et Derdre, je ne sais pas pourquoi, je la voyais en français dès le début. Et alors, je ne suis pas forcément... Pour moi, il y a des styles, et là, je parle vraiment de mes goûts personnels. Il y a des styles où je suis plus attirée vers le français que d'autres. Il y a des styles vraiment... voilà. Mais je me suis dit, s'il y a bien un morceau en français un jour dans Orkis, ça peut être celui-là. J'ai proposé l'idée aussi aux gars, ils m'ont dit « Ouh là là, oui ». Et je fais « Bon, je propose et après on voit ». J'écris, si vraiment vous êtes... Et moi-même, si je vois que ça ne fonctionne pas, si on est mal à l'aise, bah, tant pis, je réécrirai les paroles. Et du coup, le refrain, c'est « Je dormais, je me suis réveillée ». Et en fait, j'avais toutes les paroles du refrain dans la tête. Et du coup, vite, j'ai pris un calepin, j'ai tout noté. Et après, je me suis rendormie.
Bah, c'est une élimination comme Keith Richards pour Satisfaction ou Paul McCartney pour Yesterday. Enfin voilà, c'est les éliminations de la nuit, quoi.
C'est ça. Et du coup, bah, on a décidé de le garder parce que ça fonctionnait bien. Il n'y avait pas... Bon, voilà.
Et puis en plus, vous aviez tous les deux avec Brice un projet Black Doom Metal avec du chant en français. Donc peut-être que ça a un peu aidé aussi...
Je n'ai jamais sorti de ce truc-là.
Mais comment tu sais ça ?
Parce que je me suis renseigné, j'ai fait mon travail.
Alors,
est-ce qu'il pourrait y avoir plus de morceaux en français, peut-être à l'avenir, dans Orkis ? D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais ce morceau-là, il parle d'une histoire d'amour, en gros.
Oui, en fait, c'est l'histoire de Tristan et Iseult, mais en fait, c'est les bases et c'est la version celte, donc du coup, de Noise et de Derdre. Derdre, en fait, ça vient du gaélique et ça veut dire la douleur. Donc c'est pour ça que... et Derdre and Vron, ça veut dire Derdre la douleur.
Ok, d'accord, bah voilà, on a appris quelque chose. Et donc, est-ce qu'il pourrait y avoir peut-être plus de morceaux en français, vu que ça marche bien ?
Si ça s'y prête, oui. Si ça s'y prête pas, eh ben on le fera pas. C'est, encore une fois, je reviens à ce qu'on disait, enfin ce que je disais au début, c'est liberté. C'est vraiment, si on voit que ça passe, eh ben on le fera, mais il n'y a aucune obligation.
Bah, peut-être un jour un morceau en celte ou en viking, voilà, enfin,
ou en allemand.
En norrois, ou en allemand.
Ou en allemand, on s'était déjà posé la question.
Ouais, c'est vrai que l'allemand, c'est une langue qu'on aime bien aussi, donc...
À voir.
Donc, à voir.
À voir, effectivement. Alors, sur cet album Legends, est-ce qu'il y a des morceaux qui vous ont challengé, voilà, des petits défis ou des morceaux dont vous êtes particulièrement fiers
Alors.
Tous.
Non, le. Alors, côté fierté, c'est vrai que. Boudica, j'aime. Tu vois, il y a une récurrence sur les morceaux d'ouverture au niveau des paroles qui sont donc plus dans le combat, plus dans le combat contre l'oppression, dans la révolte. Il y a une récurrence aussi d'un point de vue musical, dans le sens où, bah, comme bon, j'invente rien, hein, les morceaux catchy de début d'album, voilà. Mais c'est aussi, j'essaye de faire des morceaux d'ouverture, donc catchy, mais qui condensent un peu toutes nos influences en une fois. Dans End of Lies, il y avait du heavy, il y avait du trash, il y avait du black. Bon, il y a un pont celtique à un moment donné, un pont de cornemuse, donc ça regroupait un peu tout. Dans Brave New World, bon, on était plus sur une tendance un peu power principale. Là, sur Boudica, on retourne aussi sur un peu du heavy power, avec un passage assez black metal, assez dark. Est-ce qu'il y a un passage celtique dedans ? Le couplet à la guitare est très trash.
Je pense que la petite caution celtique et folk, c'est la harpe sur le riff du début.
Oui, voilà, bah voilà.
C'est vrai, et finalement on parle de la harpe, mais elle n'est pas si présente que ça finalement dans votre musique. C'est un petit peu par-ci par-là, puisque tu disais que tu n'arrives pas à chanter et jouer de la harpe en même temps. En tout cas, en concert, c'est pas hyper intéressant pour toi non plus.
Bah, pour
quelque
Orkis,
chose comme ça. Pour
fait,
bouger sur scène, ouais. C'est pas évident.
Pour Orkis, non. Et puis. Brice me compose des parties de chant qui sont, qui sont vraiment un challenge pour moi. Et du coup, ouais, j'aime bien séparer les deux. Après, jouer de la harpe et chanter, je sais faire, parce que c'est mon métier.
Mais sur scène, voilà.
Mais voilà, faut... sur Orkis, je préfère vraiment séparer au maximum les deux. Et ça me permet aussi d'avoir une interaction un peu plus avec... vous sur scène, quand je dis vous, pardon, je me tourne vers Brice, et donc du coup avec mes potos et avec aussi le public.
Bah oui, évidemment. Alors on va parler des concerts justement, voilà, transition toute trouvée. Alors déjà, vous avez votre release party de votre album vendredi prochain, le 26 avril, c'est au Dr. Feelgood Rocket, votre QG, votre deuxième maison, à partir de 18h. Il y aura un nouveau clip en diffusion inédite, vous en concert acoustique, écoute de l'album, CD à gagner, des cocktails Orkis créés pour l'occasion. Alors j'ai pas vu d'autres événements ou concerts arriver, alors j'imagine que vous allez tourner en 2024.
Alors oui, il y a des dates qu'on n'a pas forcément
annoncées,
mais elles sont là. On va faire un concert acoustique en juin. En juin, on va jouer aussi à Saumur. Le 31 août, on joue au Fertois Metal Fest à la Fierté sous Jouarre.
On a le North Fest aussi début juin.
Effectivement.
Aussi. En juin, on a pas mal de. J'ai rien vu passer moi.
Bah alors.
C'est vrai que pour le moment, on n'a pas forcément. Comme on est pas mal focus sur la sortie
sur la
de l'album,
sortie de l'album
ouais. on va un peu. On va attendre que soit.
Vous
soit
avez encore
passé,
un peu de temps.
Oui, c'est ça.
On va jouer aussi à Lyon en octobre.
Okay.
Mais je veux dire, c'est normal. Si tu avais été au courant de certaines des dates, là, j'aurais vraiment eu peur parce que je me dis, mon Dieu, il est dans ma tête.
Ah, j'aurais peut-être trouvé d'autres trucs pour me renseigner, mais bon, là, voilà, effectivement. Bon, bah, voilà, à surveiller donc sur vos réseaux sociaux. Ça commence donc mai-juin. Il y en aura une partie en octobre, une partie cet été dans les festivals. Puis j'imagine qu'à l'automne, vous allez tourner un petit peu quoi, pour défendre cet album.
Oui.
Et c'est quoi alors la suite? Puisque j'imagine que toi, Brice, l'ultra prolifique, tu as déjà commencé à travailler sur la suite. Tu as peut-être déjà 10 albums de près pour Orchis.
Non, peut-être pas comme. Même, 9.
Alors là, on va être un peu moins débile que la dernière fois, parce que la dernière fois, on était oui, on sort notre album, celui d'après il est déjà composé, nanana, finalement on a attendu 3 ans quand même.
Oui.
Donc là, on va dire effectivement, le prochain album est déjà composé, et on a très vite fait commencer à travailler sur les tonalités, sur un petit peu arranger certaines choses.
Le concept aussi est trouvé.
Le concept est trouvé, et certaines
thématiques.
Non, mais
tu peux le dire. Non mais Lorraine va bosser, merde.
Je vais mettre des coups de pied au cul.
Aïe.
Sinon, privé de crêpes, privé de Kuniaman et privé de cidre.
Oh là là, c'est
privé
pas sympa.
Privé de Bélaise.
Oh mon Dieu, alors,
c'est pas
une feuille à crayon.
Et donc, est-ce que vous aviez pour ambition un jour d'intégrer des vrais instruments pour une partie orchestration? Ça a pu se faire sur cet album, vous alliez le faire?
Je vous jure, on joue des vrais instruments.
Ok. Non, mais pour la partie orchestration, parce que
oui,
je crois qu'avant
c'était.
Je t'embête.
Si un jour on a v'là la thune, je pense que tout. Enfin, comment dire? Je pense que toute personne et tout groupe qui utilise des instruments, on va dire, qui à la base sont des instruments acoustiques, aurait envie de travailler avec des orchestres. Après, voilà. Pour aujourd'hui, c'est pas l'idée.
Je pense pas que ce serait peut-être une très grosse envie, un très grand rêve pour une date ou deux, mais je sais pas si c'est hyper viable sur le long terme ou sur plusieurs dates. En tout cas, je pense que la Formule 5, elle marche déjà bien. Elle est pas toujours évidente non plus, hein, de toute façon, enfin comme
puis il faut se retrouver pour répéter.
C'est marrant parce qu'on a compris la question différemment en fait.
Ouais, ouais, effectivement.
Moi je l'ai compris pour les enregistrements.
Oui, absolument.
Et,
ouais.
Et Brice l'a compris pour les concerts.
Ah oui, d'accord.
Ouais,
okay.
Ouais. Okay, mais c'est bien, oui. Ça fait deux points de vue. Les deux points de vue, puisqu'effectivement les concerts avec orchestre, c'est encore autre chose. Ouais, c'est à préparer.
Ah, mais moi j'adorais. On a d'ailleurs un groupe de potes qui l'a fait, c'est Adarin et Drenaï. Qui ont monté un spectacle sous l'impulsion, il me semble, de Camille, qui est la violoniste dans les deux groupes, parce qu'elle est chef d'orchestre et elle est arrangeuse. Et voilà. Et on a vu des vidéos et ça avait l'air juste ouf ce qu'ils ont fait. Donc
peut-être que vous pourriez peut-être demander des petits tuyaux.
C'est ça.
Et c'est presque
Camille.
La fin. C'est ça. C'est presque la fin de cette interview. Avant de se quitter, on va passer aux questions flash, petite série de questions-réponses rapides. Et vous pourrez retrouver cette série de questions-réponses en vidéo sur les réseaux sociaux de The Pit Edition, Facebook, Instagram, TikTok et le blog de The Pit Edition. Les questions flash tout de suite. Première question, qu'est-ce que vous chantez sous la douche?
Ce que j'écoute sur le moment.
Alors moi je chante, enfin je fais plutôt des vocalises en fait sous ma douche. Sinon beaucoup d'opéra parce que je trouve que ça résonne bien dans ma salle de bain du coup voilà.
Quel est votre meilleur souvenir de concert?
Je pense que le meilleur souvenir de concert pour Orchis c'était le Carnunos de cette année. Comme c'était un festival auquel on allait en tant que spectateur depuis au moins 6-7 ans. Le fait de passer de l'autre côté de la barrière, c'était super impressionnant et important. Et en plus, je pense que notre concert était bon. Et concert en tant que spectateur, je pense que c'était Iron Maiden en 2013, quand ils ont joué Afraid to Strangers.
À l'inverse, quel est votre pire souvenir de concert?
Alors, je vais répondre. C'est un concert au Covent. Enfin, il y a deux concerts au Covent. Le premier, c'est Blood Ties, où en fait, l'ingé son avait oublié de me couper, de mettre un coupe-bas dans les oreilles. Ce qui fait que j'avais toutes les fréquences hyper basses. Et donc, du coup, dans mes oreilles, j'entendais une bouillie. Et du coup, je n'entendais rien du tout au sample et au clic. Et du coup, je ne savais pas du tout quand est-ce que je devais commencer. Et donc, j'ai fait... Et après, on m'a dit, t'étais un peu décalé, mais pas trop. Donc, du coup, donc il y a ça. Et puis, alors pour le coup, c'est pas de chance. C'est aussi un autre concert au Covent où, en fait, je n'entendais pas les guitares sur Banshee. Enfin, The Scream of the Banshee, qui est un des morceaux de l'album. Et du coup, littéralement, j'ai foiré mon départ. Et du coup, je me suis retrouvée totalement à côté. Et là, pour le coup, ce qui était dérangeant, c'est que les personnes dans le public s'en sont rendues compte. Et du coup, gros moment de solitude. Et j'étais là, je fais aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Et je voyais mes camarades qui étaient là. Donc voilà.
Côté Orkis, je pense que c'était la même date au Covent aussi, parce que j'avais un gros problème de son de guitare. J'ai testé tout mon matériel. Séparément, toutes les pièces marchaient, mais j'avais un son de merde. Et on a dû même enlever un morceau à cause de ça. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était le cap de la salle qui merdait. Et du coup, quand on l'a remplacé, ça fonctionnait. Mais bon, du coup, on a quand même dû virer un morceau. Et en tant que spectateur, c'était aussi un concert d'Iron Maiden. Et c'était au Wacken 2010, où dès qu'ils ont commencé à jouer Wickerman, j'étais super bien placé. J'étais trop heureux de les voir. Et en fait, dès qu'ils ont commencé à jouer, je me suis fait engloutir dans une masse d'Allemands de 100 kilos. Et du coup, j'ai dû faire tout le concert derrière parce que je n'arrivais pas à survivre dans la fosse à ce moment-là.
Quel est l'album qui vous a le plus marqué ?
I Wait Well, d'ACDC.
Moi, je pense que c'est le concert de Metallica. C'est le SM, celui qui est avec les orchestrations.
SNM.
Oui, voilà, pardon.
Non, le SM. Tu connais pas celui-là ? Il est...
Oh, tu couperas, hein. Et tu mettras dans les anecdotes trop drôles.
Avec quel groupe vous aimeriez tourner ?
Réaliste et Fan MR. Et pas réaliste. Iron Maiden, allez.
Moi, j'aimerais bien Rotting Christ. Après, je sais que d'un point de vue du style, ça marchera pas forcément. Mais je suis une grosse fan de Rotting Christ. Allez, on va dire aussi Alceste, même si, ouais, d'un point de vue, d'un point de vue style et pas Peter.
J'ai pas la ref.
Peter style, typo négative.
J'ai la ref.
même si d'un point de vue style aussi, c'est complètement différent. Allez, on va dire un petit LUV ici, comme ça, là, on reste dans quelque chose. Et un grand LUV ici, pardon.
Vous êtes plutôt côté sombre ou côté lumineux ?
J'ai peur du sombre.
J'ai toujours trouvé que le côté obscur était plus stylé, mais dans la vie de tous les jours, je pense que je suis plutôt un Jedi.
Non, je pense que moi, je suis aussi vraiment plus dans le côté lumière.
Lumière, ténèbres. Petite dédicace à nos copains Devious.
Quelle est la reprise que vous aimeriez jouer ?
En fait, cette question-là, elle est dure parce que les reprises qu'on a envie de les faire, on les fait. Donc, du coup, enfin voilà.
Et Tornado of Souls de Megadeth. Hop, allez.
Quel est le truc le plus étrange qu'un fan vous ait dit ?
Déjà, quand Dédé nous dit qu'il pleure sur nos chansons, déjà, je trouve ça ouf.
C'est parce qu'il a mal.
Ah, c'est parce qu'il a mal, parce qu'on lui a marché sur le pied.
Il a mal à ses oreilles.
Ah, d'accord. Ah mince, je pensais que ça... Ah, okay. Bon, je suis un peu déçu, du coup. c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas du tout et qui est venu une fois à un de nos concerts. C'est un passionné, en fait, de métal. Il fait 4 concerts par semaine. Il va en Belgique, il va à Paris, il va dans le Nord, il va dans le Sud. C'est vraiment un fou de concert. Et il est venu nous voir une fois et il a adoré. Et du coup, il est quasiment là tout le temps. Et il aime vraiment, apparemment, il aime vraiment beaucoup ce qu'on fait. Il nous a dit qu'il y avait un morceau en particulier, Anwin, qui le fait pleurer, mais que globalement, il aime beaucoup ce qu'on fait.
Un mot pour décrire Orkis. Vous n'êtes pas obligé de donner le même mot.
Freedom.
Liberté.
Quel super pouvoir aimeriez-vous avoir ?
La force.
Moi, je crois que ce serait à voir avec le temps, en fait. C'est avoir plus de temps parce que c'est vraiment ce qui me manque et ce qui m'empêche de répondre favorablement à certaines demandes aussi de collab que j'adorerais faire mais que j'ai pas le temps parce que je veux bien faire les choses et que et voilà donc le temps.
À quoi êtes-vous accro?
Non, franchement, c'est simple hein, la musique, mais ouais, je pourrais pas me passer de composer et sinon une vie sans fromage, c'est pas vraiment une vie.
Est-ce qu'il y a un documentaire rock ou metal qui vous a particulièrement marqué ou touché ou inspiré?
Metal, Headbangers Journey de Sam Dunn.
Pourquoi?
Ah bah c'est, je pense que ça m'a donné plus 10 points de connaissances en metal quand j'y connaissais pas grand-chose et c'est là où j'ai entendu pour la première fois parler du Wacken et c'est là où je me dis putain j'ai envie d'aller là-bas.
Alors moi j'ai pas d'interview ou de documentaire à citer vraiment. Je me souviens juste d'un documentaire qui m'avait particulièrement marqué parce que je trouvais que c'était vraiment un documentaire qui était fait par des noobs pour des noobs et en fait on était dans les clichés en fait du métalleux. Le métalleux était un alcoolique qui montrait son cul et pour lequel la musique en fait c'était la musique qu'il écoutait c'était en gros c'était de la merde, c'était accessoire et que c'était pas de la vraie musique et je me souviens de m'être dit mais putain allez juste vous faire foutre en fait parce que au moins faites un bon travail journalistique et allez interroger des gens du métier et voilà là vous êtes dans la caricature en fait donc voilà c'est plus ça qui m'avait choqué de me dire mais non, en fait, c'est pas ça le métal et la communauté métallique.
Quel est votre morceau préféré de votre album Legends?
Boudica.
Moi, c'est très dur de répondre à cette question. J'aime, en fait, à chanter, parce que là, je vais vraiment parler du coup de chanter, c'est Bae and Anaon. J'adore chanter Bae. Voilà. Je pense que ce serait plus ça. Après, j'aime aussi beaucoup Draugar.
Et pourquoi faut-il écouter ce deuxième album d'Orkis, Legends?
Si vous avez du temps à tuer, parce qu'on y a mis beaucoup de nous et que je pense qu'on a énormément travaillé, que en termes d'émotions aussi, on y a mis beaucoup d'émotions dedans.
Eh bien, merci beaucoup à vous, Orkis. Je rappelle donc que votre deuxième album, Legends, sort vendredi 26 avril et vous organisez votre release party le même jour au Dr. Figo de Rocket. Merci à vous, à bientôt.
Merci.
Merci.
Un mot sur la plateforme The Pit qui a sorti la semaine dernière en exclusivité le concert de clone à l'empreinte de Savigny-le-Temple. C'est en Seine-et-Marne, capté en avril 2023. C'était un concert dans le cadre de la tournée pour leur album Meanwhile, sorti en février 2023 et pour lequel j'avais interviewé Guillaume, le guitariste de clone d'ailleurs. C'est donc un concert à voir sur The Pit en exclusivité. L'abonnement c'est 6€ par mois, 66,6€ par an. C'est sans engagement, il y a 7 jours d'essai offerts. Rendez-vous sur the-pit.com et il y a pas mal de contenu gratuit si vous voulez tester. On passe désormais à l'agenda concert Gérard Drouot, production et le programme du Hellfest Corner.
Besoin d'un coup de main pour choisir un concert? Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Drouot, production.
Le groupe de métal progressif américain Dream Theater revient en France en novembre avec 2 concerts pour fêter leurs 40 ans. Et si vous avez raté l'info, le batteur Mike Portnoy est de retour dans le groupe. Ce sera sa première tournée avec Dream Theater depuis 14 ans. Dream Theater jouera donc le 14 novembre à la Halle Tony Garnier de Lyon et le 23 novembre à l'Adidas Arena à Paris. C'est une nouvelle enceinte créée pour les Jeux Olympiques à Porte de la Chapelle dans le 18e arrondissement. La billetterie a ouvert la semaine dernière sur gdp.fr. Le line-up complet du festival Heavy Weekend a été annoncé. Ce sont les 21, 22 et 23 juin à Nancy. Donc en plus de Scorpions, Extreme, Deep Purple, Judas Priest et Alice Cooper, on retrouvera Pretty Maids, Tom Morello, Aaron Jones, Sortilège et The Last International. Et puisqu'on parle d'Alice Cooper, le groupe jouera au Zénith de Paris le 2 octobre prochain avec Doro en première partie, la heavy metal queen allemande. La vente est déjà ouverte sur gdp.fr. Un mot sur le Hellfest Corner maintenant, qui a lancé sa nouvelle carte, hein, je le rappelle. nouvelles, nouvelles formules, nouveaux tarifs en baisse avec, et un happy hour plus long jusqu'à 20h au lieu de 19h. Et donc samedi 20 avril, ils organisent la soirée Wall of Shame. Le principe est simple, vous pouvez demander n'importe quel morceau, les barman le passeront sans broncher, mais ils pourront vous afficher publiquement au micro bien sûr. Dimanche 21 avril, c'est le brunch de Jean, il y a deux services à midi et 15h sur réservation auprès du bar. Vendredi 26 avril, le groupe de hard rock Arch sera en concert acoustique dans le bar à partir de 21h. Arch, ça s'écrit H-A-R-S-H. Et la veille, jeudi 25 avril, je serai de retour au Hellfest Corner pour une émission spéciale avec un groupe habitué du Hellfest Corner. Ce sont les Loco Muerte, le plus chicano des groupes français. On va parler de leur prochain album à venir en fin d'année, Parano Booster. Rendez-vous donc à 20h pour l'enregistrement et vous pourrez gagner des places de concert pour le concert de ZZ Top mardi 9 juillet au Zénith de Paris, offerte par Gérard Douault Productions. Je vous donnerai plus d'infos sur place, mais il faut assister à l'émission. C'est la fin de cet épisode de La Fosse. Vous retrouvez les podcasts sur les plateformes habituelles, hein, Spotify, YouTube, the-pit.com, Deezer, Samsung, Apple, Google Podcast, etc. Le nom c'est La Fosse, le podcast Metal et Rock. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortent chaque vendredi. Moi je vous retrouve la semaine prochaine, donc jeudi 25 avril à 20h au Hellfest Corner avec les Loco Muerte. C'était Raphaël Udry, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine dans La Fosse.
Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et thepit.com.